Aujourd'hui, 26 mars 2015, une personne est arrivée au centre de rétention administrative. Lui-même et sa femme sont actuellement pourtant en demande d'asile. Leur enfant est à l'école.
Également, une autre personne, un homme de Limoges, est arrivé aujourd'hui au centre de rétention de Cornebarieux. Pourtant, il s'est fait arrêter au tribunal de Limoges pour une toute autre affaire. Ses avocats sont sur l'affaire et comptent bien l'aider à se barrer de là.
Affaire à suivre. La semaine dernière, quant aux violences policières qui ont eu lieu au sein du CRA, c'est donc un flic qui a donné deux coups de poing à deux personnes, moyennant donc un coup de poing chacun. Cependant, les deux ont porté plainte contre le flic. Le lendemain,
était déféré pour passer en comparution immédiate. Il arrivait effectivement à la fin de ses 45 jours de rétention. C'est une situation assez rare de faire passer les personnes en comparution immédiate à la fin. Apparemment, ils n'ont pas réussi à trouver un laissez-passer leur permettant de l'expulser. Du coup, ils approfondissent les recherches à leur manière.
Et du coup, on va enchaîner avec une interview.
Tout à fait. Alors c'est une interview faite avec Marie-Dominique Aiguillon, qui est une personne qui travaille pour la CIMADE. Elle va nous parler de Frontex, qui est une agence européenne pour la protection, entre guillemets, ça se voit pas, on est à la radio, des frontières européennes. Donc ils ont eux aussi une manière toute particulière de protéger les frontières maritimes, terrestres, j'en passe, et des meilleures. On va écouter ça tout de suite, ainsi que la présentation d'une campagne qui s'appelle Frontexit, visant à éliminer tout simplement cette agence.
Je suis Marie-Dominique Aiguillon, je suis chargée de projet à la Commission Solidarité Internationale de la CIMADE. Donc la CIMADE, c'est une association qui travaille depuis 75 ans auprès des migrants, réfugiés, demandeurs d'asile en France, mais aussi en lien avec des organisations de défense des droits en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Et la CIMADE est également membre du réseau euro-africain Migre Europe, qui est composé d'une quarantaine d'organisations, de membres individuels, des chercheurs et des militants, du nord, du sud de la Méditerranée, à l'est également de l'Europe. Et ce réseau, qui a été créé en 2005, documente et publie en fait des analyses sur l'externalisation des politiques migratoires européennes et sur les conséquences de ces politiques sur les droits fondamentaux des personnes. Le réseau travaille énormément sur la question de l'enfermement et la question de l'éloignement, la question des expulsions des migrants en Europe et au-delà. Alors en fait, donc Frontex, c'est une agence. Dont le siège est basé à Varsovie en Pologne, dont le principal objectif est la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. En fait, c'est une agence qui est dotée d'un budget assez important, enfin en tout cas en augmentation croissante depuis sa création. En fait, l'agence avait un budget de 6 millions d'euros en 2005. Pour atteindre 94 millions d'euros en 2014. Et donc cette agence dispose via les États membres de matériel de type hélicoptère, avion, bateau, unités d'équipement telles que des radars, des sondes, des senseurs, des caméras, etc. Et donc c'est une agence en fait dont le conseil d'administration est constitué de représentants des États membres de l'Union européenne et de la Commission. Et donc le premier directeur de cette agence était un militaire finlandais, et depuis début 2015, c'est un Français qui est à la tête de Frontex, Monsieur Fabrice Leggeri, qui occupait un poste à la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière à la direction de l'immigration du ministère de l'Intérieur français. Et donc cette agence aujourd'hui compte plus de 300 employés. Donc en fait, ce budget et ce matériel lui permettent de développer différents types de missions. Des missions conjointes donc aux frontières maritimes, frontières terrestres et aéroportuaires. Et donc elle vise à mener des opérations qui surveillent les zones frontalières afin de renvoyer les ressortissants de pays non européens hors du territoire européen. Et elle organise également ce qu'on appelle des vols de recours conjoints. Ce sont des retours groupés d'étrangers en situation irrégulière depuis plusieurs États membres de l'Union européenne. L'agence a également un travail en termes d'analyse du risque migratoire. Donc je mets « risque migratoire » entre guillemets. En fait, chaque année, Frontex produit des rapports sur les potentiels risques migratoires et sur les principales routes, et elle construit des opérations conjointes en fonction de ces bilans-là. Et donc, dans ce cadre, l'agence réalise des actions que l'on nomme de débriefing, donc sur les parcours migratoires, et elle organise également des actions que l'on nomme de screening, qui visent justement à déterminer la nationalité des personnes interceptées. Voilà. En gros, pour les principales missions menées par Frontex, il y a également du partage d'informations et donc un système d'information via le développement notamment de l'agence Eurosur. Il y a également un travail de recherche assez important sur pour mettre les avancées technologiques à profit donc dans le cadre du contrôle des frontières. Donc là, dans ce cadre, Frontex a des liens importants avec des industries de contrôle et il y a en fait tout le matériel qui est acquéri par Frontex est influencé par des lobbies industriels qui sont très actifs dans l'outillage sécuritaire de haute technologie. Voilà. Et en plus de ça, Frontex, et ça c'est un des principaux enjeux à venir, a des liens avec des pays non membres de l'Union européenne. Frontex intervenait au niveau des frontières maritimes, aéroportuaires et terrestres. Donc en mer, en fait, Frontex mène des opérations maritimes qui se sont dans un premier temps, donc dans les années 2006, concentrées surtout sur les îles Canaries, puis Lampedusa, puis Malte, et depuis 2010 sur la Grèce et le canal de Sicile. Et donc tant dans les eaux territoriales que dans les eaux internationales que celles des pays tiers. Ensuite, Frontex est également présent aux frontières terrestres. Donc ce sont des opérations là qui visent à renforcer les contrôles au niveau de la frontière gréco-turque essentiellement. Aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de cette frontière-là que la présence de Frontex est très importante. Et donc, je le disais, dans les grands aéroports européens, en fait, les agents de Frontex contrôlent les migrants en fonction de leur provenance et de leur nationalité. Et toutes ces opérations-là peuvent être effectuées avec l'appui des gardes-frontières, des douanes et des autorités de police des États non européens. Et donc, à propos des retours de vols conjoints, juste dire qu'il y en a eu plus de 120 qui ont été organisés depuis sa création. Et autre chose, Frontex est également habilité à signer des accords de coopération avec des États non membres de l'Union européenne, sans contrôle démocratique, mais on y reviendra peut-être. Les États membres de l'Union européenne fondent en tout cas leur politique d'immigration sur ce prétendu risque d'invasion migratoire dont l'Union serait l'objet. Et en fait, c'est un discours erroné qui est effectivement largement répandu en Europe, mais on oublie effectivement de préciser que l'émigration vers le nord reste clairement minoritaire et que ce sont les mouvements internes, notamment au continent africain, qui sont grandement majoritaires et que les déplacements de population se font essentiellement entre pays de même niveau de développement et que finalement la majorité des migrations se font dans le sens sud-sud et non dans le sens sud-nord. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Autre chose qu'il est peut-être important de souligner, c'est que le nombre de demandeurs d'asile en Europe a diminué de moitié entre 1992, où on avait 680 000 demandes d'asile en Europe, et on est descendu à 332 000 demandes en 2012. Donc là, le nombre de demandes d'asile a diminué de moitié entre 92 et 2012. Et pendant cette même période, le nombre d'États membres de l'Union européenne, lui, est passé de 12 à 28 membres. Donc l'Union européenne a grandi. Et pendant cette même période, le nombre de demandeurs d'asile en Europe est passé de 680 000 à 332 000. Donc il n'y a pas d'invasion. Et donc c'est véritablement important de déconstruire ce mythe de l'invasion. On assiste à plus de contrôles, mais on assiste aussi à plus de morts en Méditerranée. Et juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la logique en fait de ces politiques, donc je disais que le nombre de demandeurs d'asile avait énormément baissé, c'est justement parce que ce processus d'externalisation des politiques européennes fonctionne, qu'en fait on délocalise les contrôles en amont des frontières de l'Europe pour contrôler cette immigration dite irrégulière, mais finalement ce sont ces politiques qui la rendent illégale, hein, qui la rendent irrégulière. On construit des murs à la frontière entre l'Algérie et le Maroc à Oujda, on construit des murs à la frontière gréco-turque, et en même temps on signe des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité, tout un tas d'outils qui visent à développer une coopération avec les États non européens. Mais voilà, tout cela, ça détourne les routes migratoires, ça rend les routes plus dangereuses, ça entraîne des morts en mer ou des morts aux frontières de l'Europe, ça entraîne des violations des droits et notamment des principes, là pour en revenir à Frontex, les principes du non-refoulement des demandeurs d'asile et tout un tas de droits qui sont violés, ça génère aussi de la xénophobie. Voilà. Donc c'est vrai qu'on Frontex est un des outils emblématiques de cette politique. Et alors c'est assez intéressant de voir que dans ces rapports annuels, Frontex met en avant tout un tas de résultats chiffrés en matière d'interception, de refoulement, d'identification des menaces, que je mets entre guillemets, lors des opérations aux frontières. Par contre, dans ces mêmes rapports, Frontex n'évoque que très peu la présence éventuelle de demandeurs d'asile. Donc là, en l'occurrence, en 2014, les principales personnes sont des personnes de Syrie, donc qui fuient des persécutions, donc qui sont légitimement en quête de protection internationale. Et Frontex n'évoque pas non plus la présence de mineurs isolés parmi les personnes refoulées. En mai 2009, en fait, lorsqu'une patrouille Frontex, qui était composée de gardes-côtes italiens, assistée par un hélicoptère allemand dans le cadre d'une des opérations qui se nomme Nautilus. Donc la patrouille Frontex interceptait au large des côtes italiennes environ 200 personnes qui fuyaient la Libye. La patrouille Frontex a remis ces personnes-là à un navire militaire italien qui, après 10 heures de navigation, remettait ces mêmes personnes aux autorités libyennes. Et donc cet événement a fait l'objet d'un autre rapport de Human Rights Watch qui dénonçait la violation du principe de non-refoulement, qui a été suivi en février 2012 d'une condamnation de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme. Les personnes qui ont été renvoyées en Libye étaient essentiellement des Somaliens et des Érythréens. Et donc, dans cet arrêt que l'on a nommé arrêt IRSI, qui aujourd'hui fait jurisprudence, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, a confirmé l'illégalité des retours forcés en mer. En fait, aucune personne ne peut être renvoyée sans que sa situation individuelle ne soit examinée. Puis même si l'Italie a été condamnée par la CEDH en 2012, donc pour violation de ce principe de non-refoulement, en fait, dans la pratique, les opérations que l'on nomme de pushback, en fait, ce sont donc ces renvois vers l'état de départ sans examen de la situation individuelle des personnes, ces pushbacks ont toujours lieu, et notamment à la frontière gréco-turque. Donc en fait, des bateaux de migrants sont interceptés, ils sont remorqués par les gardes-côtes grecs vers la Turquie, souvent avec violence et sans que les réfugiés soient identifiés. Et le rapport de Frontexit documente également l'usage de techniques de dissuasion qui visent en fait à repousser les embarcations de migrants. Et en effet, dans ce cadre-là, des personnes cagoulées et armées, donc une sorte de force spéciale, font parfois partie des équipes des gardes-côtes pendant les opérations maritimes et useraient de pratiques violentes. Et donc là, ça traduit une volonté délibérée des autorités grecques de recourir à des pratiques intimidantes et illégales. Et ça se passe à la frontière gréco-turque. Donc en fait, à travers les agissements de Frontex et de ce flou juridique qui l'accompagne, l'Union européenne continue son processus d'externalisation des contrôles, qui donc, encore une fois, lui permet de délocaliser son devoir de protection hors de son territoire. Alors que l'on sait ce qui se passe en Libye, je veux dire, il y a suffisamment d'organisations non gouvernementales qui ont rédigé des rapports d'observation sur les conditions de détention des migrants en Libye. Il y a trois choses. Il y a Mos Maiorum, il y a Mare Nostrum et il y a Triton. Donc, Donc Mosmar Imoyorum, ça, c'est en fait une vaste opération de police à l'échelle européenne qui a eu lieu pendant 15 jours au mois d'octobre 2014. En fait, les États membres de l'Union européenne ont mené une opération de police conjointe de grande envergure pendant 15 jours au mois d'octobre 2014. Derrière un objectif officiel de démantèlement des réseaux de passeurs, en fait, il s'agissait d'interpellations massives de personnes en situation irrégulière. Les contrôles aux frontières extérieures, mais aussi au sein de l'espace Schengen, notamment dans les ports, dans les gares, dans les aéroports, etc., ont été renforcés. Cette opération, en fait, n'est pas nouvelle. C'est une opération, il y a eu un document officiel du Conseil de l'Union européenne qui date de juillet 2014 qui explique les objectifs et les modalités de cette opération. C'est une opération qui a déjà eu lieu. Alors, effectivement, Frontex et Europol ont été associés aux États membres pour mener cette opération. Mais voilà, donc ça, c'était une chose, mais c'est vrai que c'était une opération qui était à l'initiative du Conseil de l'Union européenne. Ensuite, il y a eu Mare Nostrum, qui est une opération maritime de sauvetage en mer qui a été initiée par les Italiens après le drame de Lampedusa en octobre 2013. Un drame au large de Lampedusa où il y a eu plus de 370 personnes mortes ou disparues. Et donc l'Italie a souhaité, donc c'est une initiative italienne financée par l'Italie, de sauvetage en mer, donc c'était des bateaux de l'armée italienne, des bateaux qui patrouillaient dans le canal de Sicile, dans les eaux territoriales italiennes, mais également dans les eaux internationales. C'était des gros bateaux qui pouvaient aller loin en mer, qui a sauvé plus de 150 000 personnes pendant l'année 2014. Ensuite, cette opération donc s'est arrêtée et les discours, les médias ont bien voulu faire véhiculer le message que Mare Nostrum était terminée et que du coup Triton, organisé par Frontex, allait prendre la relève. Alors attention qu'on ne s'y trompe pas. Mare Nostrum, donc qui est une opération menée par l'Italie, qui n'a rien à voir avec Frontex, a été menée par l'Italie, visée à sauver des personnes en mer. L'opération Triton, qui a démarré fin 2014, qui est exclusivement menée par Frontex, qui est en fait une fusion de deux opérations qui existaient déjà, qui étaient menées par Frontex, qui se nomment Aeneas et Hermès. Cette nouvelle opération de Frontex-là n'est absolument pas une continuité de Mare Nostrum, c'est une opération de contrôle et non une opération de sauvetage, qui a vocation à être menée dans les eaux territoriales italiennes exclusivement. Donc voilà, qu'on ne s'y trompe pas, la vocation de Frontex n'est pas de sauver des vies, mais bien de contrôler et d'empêcher les embarcations d'arriver, voire de les refouler. Donc voilà, c'est très important de pouvoir expliciter la différence entre Mare Nostrum et Triton. Il y a eu 20 000 morts depuis la fin des années 90. Alors en plus, ce sont des chiffres qui sont recensés notamment par le biais de la presse. Donc en fait, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et on se doute que le nombre de disparus en mer est bien plus important que celui qui est recensé par la presse. Vous parliez des lobbies sécuritaires. Là, je vous invite à lire un ouvrage de Claire Rodier qui s'appelle Xénophobie Business, à quoi servent les contrôles migratoires, où elle explique bien justement cette collusion entre ces lobbies et ces industries sécuritaires et la question des politiques migratoires et comment est-ce que ces influences-là empêchent d'avoir une réflexion cohérente sur les politiques migratoires. Et donc oui, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, en fait c'est vrai que c'est très important de le rappeler que les personnes qui arrivent aux portes de l'Europe sont des personnes qui fuient des régimes de persécution. Et donc, pour en revenir à Frontex, enfin, tout à l'heure j'évoquais les agissements des gardes-côtes grecs à la frontière gréco-turque. Et en fait, toutes ces pratiques de renvoi forcé sans que les situations individuelles des personnes ne soient étudiées, ces pratiques intimidantes et illégales, en fait, elles sont bien connues de l'agence Frontex, qui qui en est témoin, en fait. Et donc Frontex est un témoin silencieux sur cette frontière gréco-turque. Mmh. Et donc Frontex continue de fournir un soutien logistique aux opérations en termes de bateaux, d'avions, de caméras, de formation des gardes-côtes, d'identification des nationalités des migrants. Et Frontex ne fait pas usage, par contre, des nouvelles prérogatives de son mandat qui, pourtant, l'autorise à suspendre une opération. Frontexit, c'est une campagne qui est menée par différents acteurs des sociétés civiles au nord et au sud de la Méditerranée, qui a été impulsée donc par le réseau Migre Europe. En fait, le constat, donc, c'était que le mandat de l'agence Frontex est incompatible avec le respect des droits fondamentaux. Et donc l'idée, c'est de demander de la transparence sur les activités de cette agence. Donc, par quel biais, on échange des lettres, en fait, avec Frontex. Mmh. Il y a plus d'une dizaine de lettres qui ont été échangées. On pose des questions sur les opérations, sur tel naufrage, etc. Et on a des réponses plus ou moins claires, plus ou moins contradictoires. En tout cas, on a des réponses. Notre demande de cette campagne, c'est de demander la suspension des activités menées par Frontex qui seraient contraires au respect des droits humains. Et une autre demande, ce serait la fermeture de l'agence à partir du moment où, à ce jour, elle est incompatible, en fait, avec le respect. On l'a vu avec les différentes opérations qui ont été menées.
Ouais, je reviens juste du coup par rapport à ce qu'il disait sur Mos Maiorum et les autres actions comme ça. Là, du coup, on a ouï dire qu'il y aurait une nouvelle session de rafle sur le mois d'avril, là vers le 4, je crois, qui aurait le nom de Humblight 2015. Voilà, après, il y a quelques démentis aussi. On attend de confirmer, dans tous les cas, vigilance rouge, comme toujours.
Voilà, donc on peut passer maintenant à... pour revenir sur l'interview, du coup là c'est une interview qui a été montée, l'interview dans son entièreté est très complète et très intéressante. Vous pourrez la retrouver sur le blog de la CLIM, donc l'adresse du blog c'est CLIM, C-L-I-M-E, .noblogs.org. Voilà, et donc on enchaîne avec la présentation d'un bouquin qui s'appelle Xénophobie Business, à quoi servent les contrôles migratoires, pardon. C'est un bouquin qui a été publié en 2012 et écrit par Claire Rodier, qui est juriste au GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés.
Et voilà, donc je vais vous en faire une présentation. C'est un bouquin qui est vraiment très intéressant, qui analyse en fait la gestion de l'immigration, en quoi en fait c'est devenu un véritable business pour le marché de la sécurité et de l'industrie de l'armement. Et voilà, donc Claire Rodier analyse cette question-là donc sous trois grandes parties. Une première partie qui est la plus importante, qui se focalise sur la manne financière que représente donc la gestion de l'immigration. Ensuite, dans une deuxième partie, elle montre en quoi ce business répond à une politique de la peur, à une supposée demande de sécurité de la part des gens à qui on présente l'immigré comme une dangereuse menace. Et elle finit sur une troisième partie, sur une dimension géopolitique, une dimension géopolitique des contrôles le fait que l'Europe impose en fait à ses voisins une sorte de co-gestion des contrôles et qui représente en fait un chantage absolument malsain qui perpétue en fait les vieilles logiques néocoloniales. Voilà, donc pour ce qui est de la première partie, donc elle a intitulé le grand marché de la sécurité. Elle montre comment donc les gouvernements ont de plus en plus recours à l'externalisation des services en matière de gestion de l'immigration et de sécurité migratoire. Hein. Donc en gros, elle délègue de plus en plus ces questions-là aux entreprises privées, ce qu'elle appelle la mercenarisation des missions de sécurité et de défense, un processus qui s'est développé à la fin du XXe siècle et qui génère évidemment d'énormes profits. elle dit en fait aussi que ça permet aux États, c'est bien pratique pour eux parce que ça leur permet de se dédouaner de leur responsabilité en cas d'incident. Voilà, c'est ce qu'elle appelle la dilution des responsabilités. Donc, en sous-traitant par exemple la gestion de l'hébergement des étrangers expulsables, les États se mettent volontairement à distance des éventuelles violations qui pourraient être commises voilà, au sein des centres de rétention par exemple. Ensuite, elle rentre un petit peu plus dans le détail dans l'analyse du marché de la surveillance des frontières et de la place prépondérante en fait qu'il occupe au sein du marché global de la sécurité. Et elle analyse notamment la G4S, qui est la plus grosse entreprise de sécurité et qui emploie aujourd'hui près de 650 000 salariés de par le monde, ce qui en fait le deuxième plus grand employeur privé du monde. Et là, elle montre en fait comment, donc, à l'intérieur de cette énorme entreprise, donc, une part croissante de l'activité est accordée donc, et dédiée à la gestion de l'immigration. Donc au nom de la menace terroriste, au nom de la criminalité internationale ou de plus en plus au nom de l'immigration, donc les gouvernements s'ouvrent des profits colossaux. L'Union européenne finance par exemple des programmes très coûteux mais qui sont finalement très rentables, à grand renfort de nouvelles technologies et d'industries de pointe, comme par exemple l'imagerie satellite et les capteurs. Voilà, la personne qu'on a interviewée, Marie-Dominique Aiguillon, a bien montré cette nouvelle technologie, la prégnance de cette nouvelle technologie dans... donne l'exemple par exemple de nouveaux capteurs ultra puissants que l'on met sous l'eau et qui sont capables de détecter à très très longue distance donc des embarcations illégales. Bon, elle donne plusieurs exemples de ce type. Elle évoque aussi évidemment les drones hein, qui occupent le hit parade de la technologie frontalière et qui promettent un marché gigantesque avec environ 20 milliards d'euros. Une autre source de profit aussi croissant, c'est évidemment l'enfermement des étrangers expulsables. Elle rappelle le cas très emblématique des États-Unis hein, où l'industrie carcérale gère directement ses centres de rétention. Donc face à tout ça, l'auteur interroge en fait l'efficacité réelle de ces dispositifs censés verrouiller les frontières de l'Europe. Elle montre comment en réalité ces dispositifs n'ont pour conséquence que de déplacer et de multiplier les routes empruntées par les migrants. Mais, dit-elle, n'est-ce pas là le but ? Au jeu du chat et de la souris, le chat n'a pas forcément intérêt à éliminer sa proie. Donc ensuite, voilà, elle passe à la deuxième partie et donc... en montrant comment l'industrie de la sécurité n'est pas la seule à tirer profit des contrôles migratoires. L'impact recherché par les gouvernements est aussi idéologique. Il s'agit de montrer à l'opinion publique que tous les moyens, évidemment, sont mis en œuvre pour assurer sa tranquillité. Pour cela, il s'agit évidemment toujours de désigner les coupables, de les assimiler à de dangereux délinquants pour justifier les mesures prises. Elle reprend le concept de Foucault de gouvernementalité, qui en gros est comment l'État rationalise son contrôle de la population. Elle répond par l'inquiétude et par l'exploitation de la peur. Donc là, elle donne l'exemple évocateur des murs, hein, on en entend quand même parler, qui sont érigés entre, par exemple, Israël et Palestine, ou entre les États-Unis et le Mexique, pour ne citer que cela. Et elle dit qu'en fait, parler du mur, le médiatiser, semble remplir une fonction finalement aussi importante que de le construire lui-même, en fait, que le mur lui-même. Et dans ce contexte-là, le mur israélien illustre ça de manière caricaturale. Il s'agit moins en fait d'enrayer les flux de population que de mettre en scène un pouvoir très tout puissant, un pouvoir raciste qui se recroqueville sur lui-même. Et donc elle dit voilà. La capacité des murs, en fait, à barrer la route aux migrants occupe finalement une place assez secondaire. Et elle donne l'exemple pour la France de l'expulsion des Roms à l'été 2010, suite au discours de Grenoble à Sarkozy, et rappelle là aussi cette même logique d'exploitation de la peur, hein, avec une opération sécuritaire qui a été très très médiatisée et qui était évidemment faite à des fins purement électoralistes. Ensuite, elle aborde la troisième partie qui est intitulée petits arrangements entre voisins, qui est vraiment très intéressante. Elle montre comment en fait l'Europe raciste qui n'entend pas gérer seule en fait ses contrôles migratoires. Et qui pour cela met en place un système dans la droite ligne donc, de la politique néocoloniale où elle fait pression auprès des pays concernés à faire de la lutte contre l'immigration irrégulière un élément central de leur politique à travers donc, un chantage énorme qui consiste à dire « je te donne des aides au développement et en échange, toi, tu joues le rôle de garde-barrière ». Et du coup, cette logique aussi de chantage contribue à créer la sanctuarisation de l'Europe, hein, le concept d'Europe forteresse.
Et juste, si je peux me permettre, juste l'aide au développement, elle est donnée, mais en fait, elle correspond déjà à des sommes qui ne sont pas si grandes, pas si importantes que ça, et elle sert surtout à la corruption en fait, des dirigeants de ces pays-là, quoi. Elle ne sert pas directement les peuples. Quoi.
De toute façon, mais en plus, là, récemment, ils ajoutent donc ce chantage supplémentaire.
Ouais,
quoi. Donc, voilà, de dire, vous jouez ce rôle de garde-barrière. Et du coup, tout ça permet évidemment à l'Europe de continuer à asseoir sa domination sur ces pays-là. Le Maroc, la Tunisie et de nombreux autres pays se trouvent contraints du coup de se doter d'une législation sur l'immigration qui réponde point par point aux exigences européennes. Voilà, donc elle conclut cette enquête sur des informations sur le fonctionnement et les missions de l'agence Frontex, hein, dont on a parlé là avec Marie-Dominique Aiguillon. Elle rappelle donc que son budget est passé de 6 à 86 millions d'euros entre 2005 et 2011. Voilà, l'évocation des enjeux économiques donc liés au fonctionnement de 300 à 400 lieux d'internement sur le territoire de l'Union européenne et finit par poser cette question donc, si l'efficacité de ces politiques de contrôle semble faible en termes de rapport coût-résultat, quels sont donc leurs réels objectifs?
Yes, donc Xénophobie Business de Claire Rodier. Et juste on rappelle le site du Gisti aussi parce qu'il est vachement bien et elle fait partie du Gisti. Et du coup, elle a écrit d'autres bouquins aussi sur lesquels on peut renvoyer, mais bon, voilà. Et donc le site du Gisti, c'est gisti.org. Y a plein d'infos dessus, de la documentation juridique et de la documentation politique, etc. etc. Ce qui paraît, j'ai une clown qui fait la mariole dans le dos, tout le monde. On va peut-être enchaîner du coup sur la manif. On enchaîne directement ? Ouais, sur la manif. Qui a eu lieu samedi dernier à Toulouse, du coup, manif antiraciste.
Un collectif antiraciste et populaire. Donc c'est venu d'étudiants donc, de tout horizon de la fac du Mireille qui en ont eu assez suite aux événements de Charlie Hebdo et tout ce qui s'est passé en France, des événements malheureux. Et du coup, on a eu un ras-le-bol. Donc on a décidé de se réunir afin de faire valoir nos idéaux et de faire respecter nos droits. Et donc voilà, on est là aujourd'hui à la manifestation du 21 mars. Afin de donner un coup de poing sur la table et de faire valoir nos idées. Et donc voilà, le collectif, il est né de ça. Donc il y a des gens vraiment de tous bords. Et tout le monde est le bienvenu pour pouvoir participer. Et le but vraiment, les axes principaux, c'est de lutter donc, contre tout ce qui est islamophobie, loi raciste, donc contre l'antisémitisme, contre tout type de xénophobie, donc dont la négrophobie, etc. Mais aussi contre des... on va dire une politique qui actuellement malheureusement est de plus en plus répressive, de plus en plus liberticide et laïciste.
Unité contre le racisme et l'islamophobie, c'est tout ensemble qu'il faut lutter contre le racisme et l'islamophobie. C'est tous ensemble qu'il faut lutter contre le racisme.
Le droit à la santé pour tous et pour toutes, par les actions collectives. Rassemblement, soutien collectif, manifestation publique, les mots d'ordre se font entendre se soutenir. Nous sommes vraiment curieux de savoir que les chefs d'État africains viennent se soigner en France, alors qu'en France, les Africains sont rejetés en Afrique. Vraiment, nous appelons la préfecture à cesser de jouer au docteur. À prendre en compte les décisions de l'ARS. Sous ensemble, luttons pour la suivi des malades. En chassant les étrangers malades, la France rétablit en France la peine de mort. Arrêtons de chasser les étrangers. Arrêtons d'établir la peine de mort en France. Aujourd'hui, c'est les gouvernements de droite comme de gauche successifs qui mettent en place les politiques d'expulsion systématique, les centres de rétention, la répression policière et les contrôles aux faciès, les lois racistes d'interdiction du voile à l'école et demain à l'université.
Et qu'est-ce qu'on veut ? Pour qui ? Quand ça ?
Maintenant !
Et qu'est-ce qu'on veut ? Pour qui ?
Pour tout !
Quand ça ? Maintenant !
C'est-à-dire que vous avez double de flics tout autour qui vous suivent. Et qui font un grand cercle dans les rues adjacentes qui bloquent tout, etc. Sur chaque rue, des dizaines ou une quarantaine ou devant notre atelier. Là, il y a 12 camions, 120 flics.
Donc, voilà, petit retour sur la manif de samedi dernier.
Alors du coup, voilà, comme il a été dit, samedi dernier à Toulouse donc, a eu lieu une manifestation, tout comme dans une vingtaine de villes en France. Force est de constater que cette manifestation annoncée comme à risque, notamment par la Dépêche avec un article bien réac le matin même, a suscité une extrême vigilance de la part de la préfecture. Donc vigilance qui a été marquée par un impressionnant dispositif sécuritaire.
Ouais, il y a eu pas moins de 600 flics qui étaient présents, à peu près 300 manifestants, et donc c'est complètement en dehors du centre-ville, dans une ville en fait quasiment fantôme, que s'est déroulée la manif, qui était strictement interdite du centre-ville. En fait, le parcours initial avait été refusé par la préfecture.
Donc malgré un parcours atypique mais non sans sens, puisque c'était un peu la première fois, on va dire, qu'une manifestation partait d'un quartier populaire. Donc là, elle a démarré à Ampalo. Donc les manifestants ont fait preuve donc d'une belle énergie malgré le constat frustrant de la non-visibilité et de la portée quasi inexistante des slogans de cette manifestation. Du coup, encore une fois, on constate le renforcement des politiques sécuritaires et racistes, et on se doute que le budget d'un déploiement policier d'une telle envergure était certainement astronomique.
Ouais, et puis donc, on nous avait parlé de la liberté d'expression avec des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue en scandant qu'on était Charlie. Mais en fait, là, on se rend compte que la liberté d'expression face à une réalité quotidienne, le racisme, ben, juste, elle n'existe pas. Donc, cette réalité ainsi que le droit d'expression, là, ils sont complètement expulsés quoi, de la ville, quoi, et comme si ça n'existait pas, en fait, quoi.
Donc voilà, et même si on ne devrait plus, ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être répété, mais voilà, c'est pas simplement l'affaire d'une journée, mais c'est une lutte qui ne s'arrête pas, et c'est une lutte du quotidien aux côtés de ceux et celles pour qui les droits et la dignité sont bafoués.
Yes, mais du coup, ouais, c'était quand même assez flippant quoi, de voir cette manif complètement quadrillée, tout le centre-ville était tout bouclé, il y a eu les trois ponts là qui étaient fermés, Saint-Michel, le pont du stade et puis le pont Neuf aussi, enfin, c'était assez délirant quoi. Donc voilà, donc une manif un peu bizarre. Et bien c'est comme ça que se termine la chronique de la clim. On peut dire au revoir.
Au revoir.
Du coup c'est tous les mois quoi, c'est le dernier jeudi du mois, juste pour préciser. Et on fait un petit jingle, une petite musique, et puis on revient dans Brut Talk derrière.
De l'air. De l'air. Ouvrez les frontières.
Here I come again, trolling with the same aim. Free my people and myself from the chains. You may say it's vain, that the villain will always remain. Yet I know, I gotta carry on fighting. Cause sitting and crying just won't save my ass from the mental strain. So I got to ease my brain, keep it safe from the wash. In this everyday warfare, so many brothers have been strayed. Some end up dead. Every day, a bunch of them are getting slain. And I can't praise your system for using propaganda, violence and skullduggery to achieve your aims. So for my people and myself, you know what? I will stand up and fight again. Got to stand up and fight again. I will stand up and fight again.